Chapitre 8. Jaampe. Jaampe, capitale du royaume des montagnes, est plus ancienne que Castelserre, de même que la lignée régnante de ce pays est antérieure à la maison des loin-voyants. En tant que cité, Jaampe est aussi éloignée par le style de la citadelle de Castelserre que les souverains loin-voyants le sont des oblats, ces guides philosophes qui gouvernent les montagnes. Il ne s'agit pas d'une cité permanente comme nous les connaissons chez nous, bien qu'il existe quelques bâtiments en dur. En revanche, le long des rues à la planification précise et bordées de jardins, les nomades des montagnes peuvent s'installer et s'en aller à loisir. On trouve un emplacement prévu pour le marché, mais les négociants vont et viennent en une procession qui reflète celle des saisons. Une vingtaine de tentes peuvent apparaître du jour au lendemain et leurs occupants grossir la population de Jaampe l'espace d'une semaine ou d'un mois, puis disparaître sans laisser de traces une fois achevés les échanges et les visites pour lesquelles ils sont venus. Jaampe est une cité de toile en perpétuelle transformation, peuplée par le vigoureux peuple des montagnes, habitué à vivre à l'air libre. Les résidences de la famille régnante et de ceux qui choisissent de vivre près d'elle toute l'année n'ont rien à voir avec nos châteaux et nos palais. Elles ont pour centre de grands arbres, dont les branches, patiemment conduites au cours de plusieurs dizaines d'années, fournissent la structure des bâtiments. Cette construction vivante est ensuite drapée d'un tissu en fibre d'écorce renforcée d'un treillis. Ainsi, les murs peuvent prendre la forme aux courbes douces d'une tulipe ou d'un œuf. Sur le tissu est projeté un crépi d'argile, lui-même enduit d'une peinture brillante à base de résine teinte aux couleurs vives qu'affectionnent les montagnards. Certains édifices sont décorés de motifs ou de créatures fantastiques, mais la plupart sont laissés tels quels. Les violets et les jaunes dominent, si bien que découvrir la cité qui pousse à l'ombre des grands arbres des montagnes donne l'impression d'arriver devant un carré de crocus au printemps. Autour de ces demeures et au carrefour de la cité nomade se trouvent les jardins. Chacun est unique, organisé autour d'une souche à la forme curieuse, d'un arrangement de pierre ou d'un bout de bois gracieux, ou bien autour d'essences odorantes, de fleurs aux couleurs vives ou de certaines combinaisons de plantes. L'un d'eux, remarquable, renferme une source bouillonnante d'eau chaude auprès de laquelle poussent des végétaux aux feuilles succulentes et des fleurs aux fragrances exotiques, originaires de quelques climats plus doux et apportés là pour enchanter les montagnards de leur mystère. Souvent, les visiteurs laissent en partant des dons dans les jardins, une sculpture sur bois, un récipient élégant, voire simplement des cailloux colorés, joliment disposés. Les jardins n'appartiennent à personne et tous les soignent. On trouve aussi à Jaampe des sources chaudes, certaines si brûlantes qu'un homme peut s'y ébouillanter, d'autres à peine tièdes et agitées d'un doux frémissement. Elles ont été domestiquées pour servir à la fois de bain public et de chauffage dans certaines des plus petites demeures. Dans chaque édifice, dans chaque jardin, à chaque angle de rue, le visiteur découvre l'austère beauté et la simplicité de couleurs et de formes qui constituent l'idéal montagnard, et l'impression générale qu'on en retire est celle d'un monde naturel, baigné de joie et de sérénité. Ce choix d'une vie simple peut conduire le visiteur à remettre en question sa propre façon de vivre. C'était la nuit. Je me rappelle qu'elle faisait suite à de longs jours de souffrance, mais guère plus. Je déplaçais mon bâton et je faisais un pas. Je déplaçais à nouveau mon bâton. Nous n'allions pas vite. Les tourbillons de neige dans le vent m'aveuglaient davantage que l'obscurité. Je ne pouvais échapper aux rafales qui les portaient. L'œil de nuit tournait sans cesse autour de moi, guidait mes pas hésitants comme s'il pouvait me faire accélérer. De temps en temps, il poussait un gémissement inquiet. La peur et la fatigue tendaient son corps. Il sentait une odeur de feu de bois et de chèvre. « Pas pour te trahir, mon frère, mais pour t'aider. N'oublie pas, tu as besoin de quelqu'un qui ait des mains. Si on te brutalise, tu n'auras qu'à crier et je viendrai. Je ne serai pas loin. » Je ne parvenais pas à me concentrer sur ses pensées. Je percevais sa frustration de ne pouvoir m'aider et sa crainte de m'entraîner dans un piège. Il me semblait que nous nous étions disputés, mais je ne me rappelais plus ce que j'avais exigé. Quoi qu'il en fût, Œil de Nuit l'avait emporté, simplement parce qu'il savait ce qu'il voulait, lui. Je dérapais sur la neige tassée de la route et je tombai à genoux. Œil de Nuit s'assit à côté de moi et attendit que je me relève. Je voulus m'étendre et il saisit mon poignet entre ses crocs. Il tira dessus sans brutalité, mais la chose plantée dans mon dos explosa soudain en une gerbe de flammes. Je poussai un gémissement.
« Je t'en prie, mon frère, il y a des maisons plus loin et des lumières dedans. Du feu et de la chaleur, et quelqu'un avec des mains qui pourra nettoyer la blessure puante de ton dos. Je t'en prie, relève-toi, rien qu'une fois encore. »
Je redressai la tête et tentai d'y voir. Il y avait quelque chose sur la route devant nous, quelque chose que la route contournait de part et d'autre. La lumière argentée de la lune brillait au-dessus, mais je n'arrivais pas à distinguer de quoi il s'agissait. Je clignai les yeux à plusieurs reprises, et la chose devint une pierre sculptée, plus grande qu'un homme. On ne lui avait pas donné de forme particulière, on l'avait simplement adoucie pour la rendre gracieuse. À son pied, des branchioles nues évoquaient un buisson, une bordure de petites pierres l'entourait, et la neige garnissait le tout. L'ensemble me fit penser à Ketriken. J'essayais de me lever, mais en vain. À côté de moi, Œil de Nuit poussa un gémissement d'angoisse. J'étais incapable de former la moindre pensée rassurante. Il me fallait toutes mes forces, rien que pour rester à genoux. Je n'entendis pas de bruit de pas, mais je perçus un brusque accroissement de la tension d'Œil de Nuit. Je levai la tête à nouveau. Loin devant moi, par-delà le jardin, quelqu'un s'approchait dans la nuit. Grand et mince, emmitouflé de tissu épais, la capuche rabattue si bas sur la tête qu'on aurait presque dit une cagoule. Je regardai l'individu venir vers moi. « La mort, » me dis-je. Seule la mort pouvait arriver si discrètement, se déplacer sans bruit par cette nuit glacée. « Sauve-toi, » murmurai-je à Œil de Nuit. « Inutile qu'elle nous prenne tous les deux. Sauve-toi vite. » À mon grand étonnement, il m'obéit et s'éclipsa en silence. Je tournai la tête vers lui. Je ne le vis pas, mais je sentis qu'il ne se trouvait pas loin. Je sentis aussi sa force me quitter, comme un manteau chaud dont je me serais dépouillé. Une partie de moi-même voulut l'accompagner, s'accrocher à lui et devenir loup. Je n'aspirais qu'à renoncer à mon corps meurtri.
« S'il le faut, mon frère, s'il le faut, je ne te refuserai pas. »
J'aurais préféré qu'il ne dise rien.
La tentation n'en était que plus forte. Je m'étais promis de ne pas lui imposer cette épreuve, de mourir s'il le fallait, mais de le laisser libre, exempt de moi pour forger sa propre existence. Pourtant, alors que l'instant de la mort approchait, il me semblait voir de multiples bonnes raisons de ne pas tenir cette promesse. Ce corps sauvage, en parfait état, cette vie simple dans l'instant, m'attirait irrésistiblement. Peu à peu, la silhouette grandit. Un grand frisson de froid et de douleur me convulsa. Je pouvais encore rejoindre le loup. Je rassemblais ce qui me restait d'énergie pour me défier moi-même.
« Par ici !»
criai-je à la mort, dans un croassement rauque.
« Je suis là ! Viens me prendre, qu'on en finisse !»
Elle m'entendit. Je la vis s'arrêter et se raidir comme effrayée. Puis, elle accourut vers moi avec une soudaine hâte, son manteau blanc tournoyant dans le vent de la nuit. Elle se dressa près de moi, grande, mince et silencieuse.
« Je suis venu à toi, »
murmurai-je. Tout à coup, elle s'agenouilla, et j'entraperçus l'ivoire ciselé de son visage décharné. Elle passa les bras autour de moi et me souleva. La pression de son bras contre mon dos fut atroce, et je m'évanouis. La chaleur revenait doucement en moi, et avec elle, la douleur. J'étais allongé sur le flanc, entre des murs, car j'entendais le vent rugir au dehors comme l'océan. Je sentis une odeur de tisane et d'encens, de peinture, de copeaux de bois, et aussi une odeur de laine, celle du tapis sur lequel j'étais couché. Le visage me cuisait. J'étais incapable de maîtriser les vagues de tremblements qui m'agitaient et pourtant réveillaient à chaque passage la pointe de fer rouge qui me brûlait le dos. Les mains et les pieds m'élançaient.
« Les nœuds de votre manteau sont gelés. Je vais devoir les couper. Ne bougez pas. »
La voix était étrangement douce, comme si elle n'était pas habituée à employer un tel ton. Je parvins à ouvrir un œil. J'étais étendu par terre, le visage tourné vers un âtre de pierre où flambait un feu. Quelqu'un était penché sur moi. Je vis étinceler une lame près de ma gorge, mais je ne pouvais pas bouger. Je sentis qu'elle faisait un mouvement de va-et-vient, mais, en toute franchise, je n'aurais su dire si elle mordait dans ma chair. Puis, on commença de m'ôter mon manteau. « Le froid l'a soudé à ta chemise, » marmonna quelqu'un. J'eus presque l'impression de reconnaître la voix. « Un hoquet. C'est du sang coagulé. » Mon manteau fit un curieux bruit d'arrachement lorsqu'on me l'enleva. Et puis, quelqu'un s'assit par terre près de moi. Je tournai lentement le regard, mais ne pus soulever la tête pour voir le visage de l'homme. Cependant, je distinguai un corps mince, vêtu d'une robe de laine blanche et moelleuse, dont des mains couleur vieil ivoire remontaient les manches. Les doigts étaient longs et fins, les poignets maigres. Il se leva brusquement pour aller chercher quelque chose. Je restai seul un moment, et je fermai les yeux. Quand je les rouvris, un large récipient de faïence bleue se trouvait près de mon visage. De la vapeur s'en élevait dans un parfum de saule et de sorbier. « Du calme, » dit la voix, et une main rassurante se posa un instant sur mon épaule. Soudain, je sentis un liquide tiède se répandre sur mon dos. « Je recommence à saigner, » murmurai-je pour moi. « Non, je mouille ta chemise pour la décoller. » Encore une fois, la voix me parut familière. Mes paupières retombèrent. Une porte s'ouvrit, se referma, et une bouffée d'air froid m'effleura. L'homme interrompit ses opérations, et je sentis qu'il me quittait du regard. « Vous auriez pu frapper, » fit-il avec une feinte sévérité. Le ruisselet d'eau chaude se remit à couler sur mon dos. « Même à quelqu'un comme moi, il arrive de recevoir des invités. » J'entendis des pas s'approcher rapidement. Une silhouette s'accroupit d'un mouvement fluide à mes côtés, et je vis une jupe se plisser. Une main repoussa mes cheveux de mon visage. « Qui est-ce, saint homme ?»«
Saint homme ?»
Je perçus une ironie mordante dans le ton.
« Je ne sais pas si je suis sacré, mais lui est sûrement massacré. Tenez, regardez son dos. »
Sa voix se radoucit. Quant à son identité, je l'ignore. La femme eut un hoquet d'horreur.
« Tout cela, c'est son sang? Mais comment peut-il être encore vivant? Il faut le réchauffer et nettoyer tout ce sang. »
Elle tira sur mes moufles et me les ôta des mains.
« Oh, ces pauvres doigts, ils sont tout noirs au bout !»
s'exclama-t-elle épouvantée. Je n'avais nulle envie de le voir, ni de le savoir. Je lâchai prise. J'eus pendant quelque temps l'impression d'être redevenu un loup. Je traversai prudemment un village inconnu, à l'affût des chiens et de tout mouvement alentour, mais tout n'était que silence blanc et neige tombant dans la nuit. Je trouvai la masure que je cherchais, et en fis le tour sans oser y pénétrer. Au bout d'un moment, j'eus le sentiment d'avoir fait tout ce que je pouvais, et j'allais chasser, je tuais, je mangeais, je dormis. Quand je rouvris les yeux, la pièce baignait dans la pâle lumière du jour. Les murs étaient courbes. Je crus d'abord que mes yeux accommodaient mal, et puis je reconnus la forme d'une maison montagnarde. Peu à peu, j'en distinguai les détails. D'épais tapis de laine par terre, des meubles en bois rustique, une fenêtre bouchée par une peau huilée. Sur une étagère, deux poupées étaient assises tête contre tête, aux côtés d'un cheval de bois avec une petite carriole. Un pantin représentant un chasseur pendait dans un coin. Sur une table gisaient des bouts de bois peints de couleur vive. Je sentais toujours une odeur de copeaux et de peinture. « Des marionnettes, » me dis-je. « Quelqu'un fabrique ici des marionnettes. » J'étais couché à plat ventre sur un lit, une couverture sur moi. J'avais bien chaud. La peau du visage, des mains et des pieds me cuisait désagréablement, mais je pouvais n'en pas tenir compte, car la grande douleur qui me vrillait le dos primait tout. J'avais la bouche moins sèche. Avais-je bu? Il me semblait me rappeler un goût de tisane tiède, mais c'était un souvenir incertain. Des pieds chaussés de pantoufles en feutre s'approchèrent de mon lit. Quelqu'un se pencha sur moi et souleva ma couverture. Un courant d'air frais coula sur ma peau. Des doigts experts coururent sur moi et palpèrent la région de ma blessure.
Qu'il est maigre. S'il était un peu plus charnu, je lui donnerais plus de chances de s'en tirer,
dit avec tristesse une voix de vieille femme.
Va-t-il garder ses doigts et ses orteils?
Une voix de femme, tout près de moi, une jeune femme. Je ne la voyais pas, mais elle était toute proche. L'autre se pencha sur moi, manipula mes mains, plia mes doigts, en pinça les extrémités. Avec une grimace, j'essayai de les retirer.
« S'il survit, il gardera ses doigts, »
dit-elle d'un ton prosaïque, bien que non dénué de douceur.
« Ils seront sensibles au début, car la peau et la chair qui ont été gelées devront tomber. Mais ils ne sont pas en trop mauvais état. C'est l'infection du dos qui risque de le tuer. Il y a quelque chose au fond de cette blessure, une pointe de flèche et une partie de la hampe, on dirait. »
« Vous ne pouvez pas les extraire ?»
C'était la voix de Main d'Ivoire.
« Si, facilement, » répondit la femme.
Je me rendis soudain compte qu'elle parlait la langue de serre avec l'accent montagnard.
« Mais il va certainement saigner, et il n'a pas les moyens de perdre encore du sang. De plus, l'infection risque alors de se répandre dans tout le corps. »
Elle poussa un soupir.
« Ah, si Jonquille était encore de ce monde !» Elle était très versée dans ce domaine. C'est elle qui avait retiré au prince Rurisque la flèche qui lui avait percé la poitrine. À chacune de ses respirations, on voyait des bulles se former sur sa blessure. Pourtant, elle ne l'a pas laissé mourir. Je ne suis pas aussi bonne guérisseuse qu'elle, mais je vais tout de même essayer. Je vais envoyer mon apprenti vous apporter une pommade pour ses mains, ses pieds et son visage. Oignez-l'en bien chaque jour. Et ne vous inquiétez pas de sa desquamation. Pour son dos, il faudra y maintenir un cataplasme pour aspirer au mieux l'infection. Il faut aussi lui faire boire et manger tout ce qu'il pourra avaler, et qu'il se repose. D'ici une semaine, nous extrairons cette flèche, en espérant qu'il aura repris assez de force pour y survivre, Joffrone. Connaissez-vous un bon cataplasme?
Un ou deux, oui.
Celui au son et au gratteron est efficace.
« Ça ira très bien. J'aimerais rester pour m'occuper de lui, mais j'ai d'autres patients à voir. Buteau-cèdre a été attaqué cette nuit. On a appris par oiseau messager qu'il y a eu beaucoup de blessés avant que les soldats soient refoulés. Je ne peux soigner l'un et oublier les autres. Je dois le laisser entre vos mains. »«
Et dans mon lit ?» fit Main d'Ivoire d'un ton lugubre. J'entendis la porte se refermer sur la guérisseuse. Je pris une profonde inspiration, mais ne put trouver la force de parler. Derrière moi, j'entendis l'homme se déplacer dans la maison, verser de l'eau et remuer de la vaisselle. Des pas s'approchèrent.
« Je crois qu'il est réveillé, » dit Joffrone, à mi-voix.
Je hochai légèrement la tête contre mon oreiller.
« Essayez de lui faire boire ça, dans ce cas, »
dit Main d'Ivoire. « Ensuite, laissez-le se reposer. Je vais aller chercher du son et du gratteron pour votre cataplasme. »
« Et de quoi me coucher aussi, puisqu'il paraît qu'il doit rester ici. »
Un plateau passa au-dessus de moi et apparut dans mon champ de vision. Un bol et une timbale y étaient posés. Une femme s'assit à côté de moi. J'étais incapable de tourner la tête pour voir son visage, mais l'otissage de sa jupe était montagnard. Elle plongea une cuillère dans le bol et la porta à ma bouche. J'en goûtai le contenu avec précaution. C'était une sorte de brouet. De la timbale s'échappait un parfum de camomille et de valériane. J'entendis une porte s'ouvrir en coulissant, puis se refermer, et une bouffée d'air froid traversa la pièce. Une nouvelle cuillerée de brouet, puis une troisième.
« Où ?»
articulai-je tant bien que mal.
« Comment ?»
demanda la femme en se penchant. Elle tourna la tête pour voir mon visage. Ses yeux bleus étaient trop près des miens.
« Vous avez dit quelque chose ?»
Je refusai la cuillerée suivante. Je n'avais soudain plus la force de manger, bien que ce que j'avais déjà ingurgité m'eût revigoré. La pièce parut s'assombrir. Quand je repris connaissance, c'était la nuit. Tout était silencieux en dehors du crépitement étouffé du feu dans la cheminée. Il en émanait une lueur vacillante, mais suffisante pour éclairer la pièce. Je me sentais fiévreux, très faible, et j'avais terriblement soif. Il y avait une timbale d'eau sur une table basse près de mon lit. Je tentai de m'en saisir, mais la douleur arrêta mon geste. J'avais l'impression que ma blessure enflée me rigidifiait le dos. Le moindre mouvement la réveillait.
« De l'eau, »
dis-je, mais de ma bouche sèche ne sortit qu'un murmure. Nul ne répondit. Près de l'âtre, mon hôte s'était fabriqué une paillasse. Il dormait comme un chat, détendu, mais environné d'une aura de constante vigilance. Sa tête reposait sur son bras allongé, et le feu l'éclairait d'une lumière satinée. Je scrutais son visage, et mon cœur s'arrêta un instant de battre dans ma poitrine. Ses cheveux, ramenés en arrière en queue, découvraient les traits nets de son visage. Immobile et sans expression, on eût dit un masque ciselé. La dernière trace d'enfance, consumée, n'avait laissé que les méplats purs de ses joues émaciées, de son front haut et de son long nez droit. Ses lèvres étaient plus minces, son menton plus ferme que dans mon souvenir. La lueur dansante du feu instillait de la couleur ambrée à son visage blanc. Le fou avait grandi depuis notre séparation, excessivement, me semblait-il, en 12 mois. Pourtant, cette année avait été la plus longue de mon existence. Je demeurai un moment à le contempler. Il ouvrit lentement les yeux, comme si je l'avais appelé, et l'espace de quelques minutes, il resta lui aussi à me regarder sans un mot. Puis, un pli barra son front. Il se redressa sans hâte, et je vis alors que sa peau avait bel et bien la couleur de l'ivoire, ses cheveux, celle de la farine fraîchement moulue, mais ce furent ses yeux qui me paralysèrent le cœur et la langue. Il reflétait la lumière du feu, jaune comme ceux d'un chat. Je retrouvai enfin mon souffle.
« Fou !»
soupirai-je, tristement.
« Que t'a-t-on fait ?»
La bouche desséchée, j'avais du mal à articuler. Je tendis la main vers lui, mais mon geste tira sur les muscles de mon dos et je sentis ma blessure se rouvrir. Le monde bascula et disparut. Sécurité, telle fut ma première impression. Elle provenait de la douce tiédeur du lit propre, du parfum végétal de l'oreiller sous ma tête. Quelque chose de chaud et de légèrement humide était doucement appuyé sur ma blessure et en atténuait le lancinement. Je me sentais protégé aussi tendrement que par les mains fraîches qui tenaient entre elles mes doigts noircis par le gel. J'ouvris les yeux, et la pièce éclairée par le feu prit peu à peu de la netteté. Il était assis près de mon lit. Il y avait en lui une immobilité qui n'était pas un manque d'éveil, et il avait le regard plongé dans les ombres au-delà de moi. Il portait une simple robe de laine blanche à col rond. Le voir ainsi habillé sans apprêt me laissait saisi après toutes les années où je l'avais toujours connu en livrée multicolore. C'était comme découvrir une marionnette aux teintes trop vives, soudain dépouillée de sa peinture. Soudain, une larme d'argent coula sur une des joues le long de son nez étroit. J'en restais stupéfait.
Fou ?
Cette fois, j'avais croassé au lieu de murmurer. Ses yeux se braquèrent aussitôt sur les miens, et il tomba à genoux près de moi. Il avait la respiration hachée. Il s'empara de la timbale d'eau et la porta à ma bouche. Je bus, puis il la reposa et prit ma main qui pendait. D'une voix douce, en s'adressant plus à lui-même qu'à moi, il dit
« Ce qu'on m'a fait, Fitz.
Grand Dieu,
et toi, que t'a-t-on fait pour te marquer ainsi? Que m'est-il arrivé pour que je ne te reconnaisse même pas alors que je te portais dans mes bras ?»
Hésitant, ses doigts frais caressèrent mon visage, suivirent la balafre et l'arête brisée du nez. Il posa soudain son front contre le mien.
« Quand je pense combien tu étais beau, »
chuchota-t-il d'une voix brisée avant de se taire. J'eus l'impression que la goutte chaude de sa larme me brûlait le visage. Il se redressa soudain, s'éclaircit la gorge, puis s'essuya les yeux de sa manche en un geste enfantin qui acheva de m'émouvoir. Je pris une profonde inspiration et me ressaisis.
« Tu as changé, »
dis-je. Non sans difficulté.
Ah, oui, sans doute. Comment en aurait-il été autrement? Je te croyais mort et ma vie anéantie, et aujourd'hui te voir revenu en même temps que le but de mon existence. Quand j'ai ouvert les yeux sur toi, j'ai cru que mon cœur allait cesser de battre, que la folie avait fini par me gagner. Et puis, tu as prononcé mon nom. J'ai changé, dis-tu. Plus que tu ne l'imagines autant que toi, visiblement. Cette nuit, je me reconnais à peine moi-même.
Jamais je n'avais entendu le fou parler ainsi à tort et à travers. Il reprit son souffle, mais sa voix se brisa sur ses paroles suivantes.
« Pendant un an, je t'ai cru mort, Fitz, pendant tout un an !»
Il n'avait pas lâché ma main, et je le sentais trembler. Il se leva brusquement en disant
« Nous avons tous les deux besoin d'un remontant. »
Il s'éloigna dans la chambre obscure. Il s'était plus étoffé qu'il n'avait grandi, et il avait perdu sa silhouette d'enfant. Mince et svelte, il était musclé comme un acrobate. Dans une armoire, il prit une bouteille et deux timbales. Il déboucha la bouteille, et je sentis une chaude odeur d'eau-de-vie avant même qu'il ne nous serve. Puis, il revint près de mon lit et me tendit une des timbales, que je réussis à prendre malgré mes doigts noircis de froid. Il paraissait avoir retrouvé en partie son sang-froid, et tout en buvant, il m'observa par-dessus le bord de sa timbale. Je redressai la tête et fis couler une gorgée d'eau-de-vie dans ma bouche. Une moitié dégoulina dans ma barbe, et je m'étranglais sur l'autre comme si je n'avais jamais avalé d'eau-de-vie de mon existence. Et puis, je sentis la chaleur de l'alcool se répandre dans mon estomac. Le fou secoua la tête en m'essuyant délicatement le menton.
« J'aurais dû écouter mes rêves. Je ne cessais de rêver que tu revenais. J'arrive. Voilà ce que tu répétais sans arrêt. Mais moi, j'étais convaincu que j'avais failli, que le catalyseur était mort. Je ne t'ai même pas reconnu quand je t'ai ramassé sur la route.
« Fou !» murmurai-je. J'aurais préféré qu'il se taise. J'avais envie de jouir un moment de mon impression de sécurité et de ne penser à rien. Mais il ne comprit pas. Il me regarda avec son sourire espiègle d'autrefois.
« Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Quand nous avons appris que tu étais mort, que Royal t'avait fait tuer, ma vie a pris fin. Et ça a été pire, je crois, quand les pèlerins ont commencé à venir par petits groupes et à me saluer comme le prophète blanc. » Je savais que j'étais le prophète blanc. Je le savais depuis mon enfance, comme ceux qui m'ont élevé. J'ai grandi dans la certitude qu'un jour, je partirais vers le nord pour te trouver et qu'à nous deux, nous remettrions le temps sur la bonne voie. Toute ma vie, j'ai su que tel était mon rôle. Je n'étais guère plus qu'un enfant quand je me suis mis en route. Seul, je me suis rendu à Castelserre pour y chercher le catalyseur que je pouvais seul reconnaître. Je t'ai vu. Et je t'ai reconnu, alors que tu ne savais pas toi-même qui tu étais. J'ai observé la pesante rotation de la roue des événements, et j'ai noté que chaque fois, tu étais la petite pierre qui la détournait de son ancien chemin. J'ai essayé de t'en parler, mais tu ne voulais rien entendre. Le catalyseur, toi ? Oh non !
Il éclata d'un rire presque affectueux. Puis, il termina sa timbale et porta la mienne à mes lèvres. J'en bus une gorgée. Il se leva ensuite, fit le tour de la pièce à pas lents, puis s'arrêta pour remplir sa timbale, et revint enfin auprès de moi.
J'ai vu la situation au bord de la catastrophe, mais tu étais toujours là, telle la carte qui n'était jamais sortie, la face du dé qui n'était jamais apparue. Quand mon roi est mort, comme il était écrit, la lignée des loin voyants avait un héritier, et Fitz Chevalerie était vivant, le catalyseur qui changerait tout de façon qu'un héritier monte sur le trône.
Encore une fois, il but son eau-de-vie d'un trait, et l'alcool parfumait son haleine quand il reprit.
« Je me suis enfui avec Ketriken et l'enfant à naître, le deuil au cœur, et pourtant convaincu que tout se déroulerait comme prévu, car tu étais le catalyseur. » Mais lorsque nous avons appris ta mort... »
Il se tut soudain. Quand il voulut poursuivre, ce fut d'une voix altérée, dont toute musique avait disparu.
« Ma vie est devenue un mensonge. Comment pouvais-je être le prophète blanc si le catalyseur n'était plus? Que prédire? Les changements qui auraient pu intervenir si tu avais été vivant? Quel rôle pouvais-je jouer, sinon celui de simple témoin d'un monde qui allait s'enfoncer toujours davantage dans l'anéantissement? Je n'avais plus de but, car, vois-tu, ton existence constituait plus de la moitié de la mienne. C'était par l'entrelacement de nos actes que j'existais. Pire encore, j'en suis venu à me demander si une partie quelconque du monde était bien telle que je la croyais. Étais-je vraiment un prophète blanc, ou bien était-ce le résultat d'une folie bizarre, d'une illusion qu'une erreur de la nature avait inventée pour se consoler? Un an, Fitz, un an, j'ai pleuré l'ami que j'avais perdu et le monde que j'avais condamné sans le vouloir, tout était ma faute. Et quand l'enfant de Ketriken, mon dernier espoir, est né inerte et bleu, ce ne pouvait être encore une fois que de mon fait. Non ! Le cri avait jailli de mes lèvres avec une force que j'ignorais posséder. Le fou se recroquevilla comme si je l'avais frappé, puis...
« Si, »
dit-il simplement, en reprenant doucement ma main.
« Je regrette. J'aurais dû me douter que tu n'étais pas au courant. La reine a été anéantie par cette tragédie, et moi aussi. Avec l'héritier des loin voyants, mon dernier espoir disparaissait. J'avais tenu bon en me répétant que si l'enfant montait un jour sur le trône, cela suffirait peut-être. Mais... quand on a présenté à Ketriken Alité qu'un enfant mort-né pour prix de ses douleurs, j'ai eu l'impression que mon existence n'était qu'une plaisanterie, une comédie, une sinistre farce que m'avait joué le temps. Mais aujourd'hui... »
Il ferma les yeux un instant.
« Aujourd'hui, je te retrouve bien vivant, et je revis moi aussi, et je retrouve confiance tout à coup. Je sais à nouveau qui je suis et qui est mon catalyseur. »
Il éclata de rire, sans imaginer à quel point ses propos me glaçaient.
« J'avais perdu la foi, moi, le prophète blanc, je ne croyais plus en mes propres prédictions, mais nous sommes enfin réunis, Fitz, et tout va se passer comme il était écrit. »
Il inclina encore une fois la bouteille pour remplir sa timbale. L'alcool qui en coula avait la couleur de ses yeux. Il vit mon regard posé sur lui et eut un sourire ravi.
« Ah ! Tu te dis que le prophète blanc n'est plus blanc. Ce doit être l'évolution normale de mon espèce, et peut-être même vais-je encore gagner en teinte les années passant. »
D'un geste, il écarta le sujet.
« Mais c'est sans grande importance. Je n'ai que trop parlé. Raconte-moi, Fitz, raconte-moi tout. Comment as-tu fait pour survivre? Pourquoi es-tu ici ?»«
Vérité m'appelle. Je dois le rejoindre. » À ces mots, le fou prit une inspiration, non pas brusque comme un hoquet, mais longue, comme s'il inspirait la vie même. Il rayonnait presque de plaisir.
« Ainsi, il est vivant ? Ah !»
Avant que je pusse lui en dire davantage, il m'arrêta de la main.
« Doucement, explique-moi tout, mais dans l'ordre. Ce sont là des propos que je languis d'entendre depuis longtemps. Il me faut tout savoir. »
Je m'efforçais de lui obéir. J'avais peu de force, et la fièvre m'emportait parfois, si bien que ma pensée s'égarait et que j'oubliais à quel moment je m'étais écarté du récit de mes aventures. Arrivé au cachot de Royal, les seuls mots que je pus prononcer furent « Il m'a fait rouer de coups et affamé. » Le regard du fou se porta sur mon visage balafré, puis se détourna aussitôt, et je sus qu'il comprenait, lui aussi n'avait que trop bien connu Royal. Comme il attendait que je continue, je secouai lentement la tête. Il acquiesça, puis sourit.
« Ce n'est pas grave, Fitz. Tu es fatigué, et tu m'as déjà dit ce que je voulais le plus apprendre. Le reste attendra. Pour ma part, je vais te narrer mon année passée. »
J'essayais de l'écouter, de m'accrocher aux mots importants pour les ranger dans mon cœur. Il y avait tant de choses sur lesquelles je m'interrogeais depuis si longtemps. Royal avait bel et bien soupçonné la tentative de fuite. En retournant dans ses appartements, Ketriken avait constaté la disparition des affaires qu'elle avait soigneusement choisies et emballées, dérobées par les espions de Royal. Et elle s'était mise en route avec les vêtements qu'elle portait, un manteau récupéré au dernier moment et garde-avantage. J'appris à cette occasion quel temps détestable le fou et Ketriken avaient dû affronter la nuit où ils s'étaient esquivés de Castelserre. Elle montait ma jument suit, tandis que le fou devait batailler avec ce cabochard de Rousseau. Et ils avaient ainsi traversé les six duchés en plein hiver. Ils étaient arrivés à Lac Bleu à la fin de la période des tempêtes. Le fou avait subvenu à leurs besoins et leur avait obtenu une place sur un navire en se maquillant, en se teignant les cheveux et en jonglant dans les rues. De quelle couleur s'était-il peint le visage? En blanc, naturellement. Meilleur moyen de dissimuler le teint blanc pur que devaient chercher les espions de Royal. Ils avaient traversé le lac sans incident majeur, passé Œil de Lune et pénétré dans les montagnes. Là, Ketriken avait aussitôt demandé l'aide de son père afin de découvrir ce qu'il était advenu de vérité. Il avait fait escale à Jaamp, en effet,
Mais on n'avait plus entendu parler de lui depuis. Ketriken avait lancé des cavaliers sur sa piste et s'était même joint aux recherches, mais ses espoirs ne l'avaient conduite qu'au chagrin. Loin, au cœur des montagnes, elle avait trouvé le site d'un combat. L'hiver et les charognards avaient fait leur œuvre et aucun corps n'avait pu être identifié. Mais on avait retrouvé la bannière au cerf de vérité. Les flèches qui jonchaient le sol et les côtes marquées de coups de hache d'un des squelettes prouvaient que la troupe n'avait succombé sous l'assaut ni des bêtes ni des éléments. Il n'y avait pas assez de crânes pour le nombre de corps, et les ossements éparpillés rendaient difficile le décompte des victimes. Aussi Ketriken avait-elle encore conservé quelque espérance jusqu'au moment où l'on avait trouvé un manteau qu'elle se rappelait avoir mis dans les affaires de vérité. Elle avait elle-même brodé le cerf sur l'écusson de poitrine. En dessous, gisaient pêle-mêle des os effrités et des vêtements en lambeaux. Alors, Ketriken avait pleuré son défunt époux. Elle avait regagné Jaamp, où elle avait oscillé entre une douleur qui l'anéantissait et une fureur brûlante inspirée par les intrigues de Royal. Sa rage avait fini par se cristalliser dans la résolution de placer l'enfant de vérité sur le trône des six duchés et de donner au peuple un souverain juste. Cette détermination l'avait soutenue jusqu'à la naissance de son enfant mort-né. Depuis, le fou l'avait à peine vue, sinon brièvement, lorsqu'elle se promenait dans les jardins gelés, le visage aussi figé que la glace qui couvrait les parterres. Le récit du fou était émaillé d'autres nouvelles, de plus ou moins grande importance pour moi. Suir ou Sceau étaient tous deux vivants et en bonne santé. Malgré son âge, ma jument portait le petit du jeune étalon, ce qui me fit hocher la tête avec étonnement. Royal avait tout fait pour déclencher une guerre, et l'on disait que les meutes de bandits qui écumaient désormais les montagnes étaient à sa solde. Des chargements de grains qui avaient été payés au printemps n'avaient jamais été livrés, et les marchands montagnards n'avaient plus le droit de franchir la frontière avec leurs produits. On avait découvert plusieurs petits villages proches des six duchés pillés et incendiés, tous les habitants abattus, et le courroux du roi Eyod, lent à s'échauffer, brûlait à présent comme une fournaise. Les montagnards ne possédaient pas d'armée constituée, mais tous, sans exception, étaient prêts à prendre les armes sur un mot de leur oblat. La guerre était imminente. Le fou me donna aussi des nouvelles de Patience, la dame de Castelserre, transmise de bouche à oreille des marchands ou contrebandiers. Elle faisait tout son possible pour défendre la côte de Serre. L'argent baissait, mais les habitants du pays lui versaient ce qu'ils appelaient la part de la dame, qu'elle distribuait du mieux qu'elle pouvait à ses soldats et ses marins. Castelserre n'était pas encore tombé, bien que les pirates eussent établi des camps tout le long des côtes des six duchés. Avec l'hiver, la guerre s'était calmée, mais les rivages se couvriraient de sang dès le retour du printemps. Certains châteaux parmi les plus faibles envisagent de traiter avec les pirates rouges, et certains leur payaient ouvertement tribut dans l'espoir d'éviter la forgisation. Les duchés côtiers ne survivraient pas à un autre été. Telle était la vie d'Imbre. Je me gardais bien d'interrompre le fou pendant qu'il parlait de mon ancien maître. Il était parvenu à Jaamp en plein été, par des chemins secrets, déguisé en vieux camelot, mais il s'était fait connaître de la reine dès son arrivée. C'était alors que le fou l'avait vu. « La guerre lui va bien, » remarqua-t-il. « Il a la démarche d'un jeune homme, il porte une épée à la hanche, et il y a une flamme dans ses yeux. » Il s'est réjoui de voir le ventre de la reine s'arrondir de l'héritier des loin-voyants, et ils ont évoqué avec enthousiasme l'enfant de vérité sur le trône. Mais cela se passait l'été dernier. Il soupira. « Il paraît qu'il est revenu, sans doute parce que la reine l'a prévenu qu'elle avait mis au monde un enfant mort-né. Je ne l'ai pas encore vu. De toute façon, quel espoir peut-il encore nous apporter ?» Il secoua la tête. « Il faut un héritier au trône des loin-voyants, » dit-il d'un ton pénétré. « Vérité doit en avoir un, sinon... » Il eut un geste d'impuissance. « Et pourquoi pas Royal ? Un enfant de lui ne suffirait-il pas ?»«
Non. »
Son regard se fit lointain.
« Non, je suis incapable de te dire pourquoi, mais je peux te l'assurer. Dans tous les avenirs que j'ai vus, il n'a pas de descendant. Pas même un bâtard. En tout temps, il règne comme le dernier des loin-voyants, et il mène aux ténèbres. »
Un frisson glacé me parcourut lentement. Il était trop étrange quand il s'exprimait ainsi, Et puis, ces propos mystérieux m'avaient rappelé une autre inquiétude qui me pesait. Il y avait deux femmes, une ménestrelle, Astérie, et Caudron, une vieille femme en pèlerinage qui se rendait dans les montagnes. Caudron disait chercher le prophète blanc. Je n'imaginais pas qu'il s'agissait de toi. As-tu entendu parler d'elles? Sont-elles arrivées à Jaamp? Il secoua lentement la tête.
Personne n'est venu en quête du prophète blanc depuis le début de l'hiver.
Il s'interrompit devant mon expression anxieuse.
Naturellement, je ne suis pas au courant de toutes les allées venues du pays. Elles sont peut-être à Jaamp. Mais je n'ai eu aucun écho de leur présence.
Enfin, à contre-cœur,
les bandits s'en prennent maintenant aux voyageurs. Elles ont peut-être été retardées.
Elles étaient peut-être mortes. Elles m'avaient libéré de ma prison et je les avais obligées à continuer seules leur chemin.
Fitz, ça va fou.
Peux-tu me rendre un service?
Je me méfie de ce ton.
De quoi s'agit-il? Ne dis à personne que je suis ici. Ne révèle à personne que je suis vivant, pour le moment. Il poussa un soupir.
Même à Ketriken? Pour lui apprendre que Vérité est toujours vivant?
Fou, je compte exécuter seul ma mission, et je ne tiens pas à donner de faux espoirs à la reine. Elle a déjà supporté une fois la nouvelle de la mort de son époux. Si je parviens à le lui ramener, il sera bien assez tôt pour se réjouir vraiment. C'est beaucoup demandé, je sais, mais je dois demeurer un inconnu à qui tu portes secours. Plus tard, j'aurai peut-être besoin de ton aide pour me procurer une vieille carte des bibliothèques de Jaamp, mais quand je partirai, ce sera seul. J'ai plus de chances de réussir si je m'y prends discrètement. Je détournai les yeux. Que Fitz Chevalerie reste mort.
C'est préférable, dans l'ensemble. Mais tu verras au moins Imbre, non?
Il n'arrivait pas à en croire ses oreilles. Même Imbre ne doit pas savoir que je suis vivant. Je me tus un instant en me demandant de quoi mon vieux maître serait le plus mécontent. Que j'ai tenté d'assassiner Royal alors qu'il me l'avait toujours interdit. Ou que j'ai à ce point saboté le travail. Je dois accomplir cette mission tout seul. Je le dévisageai et à son expression, je vis qu'il acceptait, bien qu'à contre-cœur. Il poussa un nouveau soupir.
Je ne peux pas me dire complètement d'accord avec ton procédé, mais je ne révélerai ta présence à personne.
Et il eut un petit rire. La conversation s'éteignit. La bouteille d'eau-de-vie était vide et, réduit au silence, nous restâmes à nous dévisager comme deux ivrognes. L'alcool et la fièvre brûlaient en moi. J'avais trop de sujets de réflexion et trop peu de moyens d'action. Si je ne bougeais pas, ma douleur dans le dos se limitait à un sourd lancinement au rythme de mon cœur.
« Dommage que tu n'aies pas réussi à tuer Royal, »
fit soudain le fou. « Je sais. J'ai essayé, mais comme conspirateur et comme assassin, je ne vaux rien. » Il haussa les épaules à ma place.
« Tu n'as jamais été très doué là-dedans, tu sais. Il y a toujours eu chez toi une naïveté qu'aucune laideur ne pouvait souiller, comme si tu ne croyais pas vraiment au mal. C'est ce que je préférais chez toi. »
Le fou oscillait légèrement sur son séant, mais il se ressaisit.
« C'est ce qui m'a le plus manqué quand tu es mort. »
J'eus un sourire niais. J'avais cru comprendre tout à l'heure que c'était ma grande beauté. Le fou resta un moment à me dévisager sans rien dire, puis il détourna le regard et à mi-voix.
« Ce n'est pas de jeu. Si j'avais été moi-même, je n'aurais jamais rien dit de tel. Et pourtant... Ah, Fitz... »
Ses yeux revinrent sur moi et il secoua la tête d'un air attendri. Puis, sans trace de moquerie dans la voix, au point que j'eus l'impression d'avoir un inconnu devant moi.
La moitié de ton charme venait peut-être de ce que tu n'en avais pas conscience, à la différence de Royal. Voilà un homme qui est beau, mais qui le sait trop bien. Tu ne le verras jamais les cheveux ébouriffés, ni les joues rougies par le vent.
Un instant, j'éprouvais une gêne curieuse, puis, ni une flèche plantée dans le dos. C'est bien dommage. Là-dessus,
Nous partîmes d'un fou rire que seuls les ivrognes peuvent comprendre. Cette hilarité déclencha néanmoins une douleur aiguë dans mon dos et je haletai bientôt comme un poisson hors de l'eau. Le fou se leva, plus ferme sur ses jambes que je ne m'y serais attendu, pour ôter une poche dégoûtante de ma plaie et la remplacer par une autre, chaude au point d'en être presque désagréable, qu'il tira d'une casserole posée dans la cheminée. Cela fait, il revint s'accroupir auprès de moi. Il planta son regard dans le mien. L'expression de ses yeux jaunes était aussi difficile à déchiffrer que quand ils étaient délavés. Il posa une longue main fraîche sur ma joue et repoussa d'un geste délicat les cheveux qui me tombaient dans les yeux. « Demain, » me dit-il d'un ton grave, « nous serons de nouveau nous-mêmes, le fou et le bâtard, ou le prophète blanc et le catalyseur, si tu préfères. Nous devrons reprendre le cours de ces existences, même si nous ne les aimons pas, et accomplir tout ce que le destin nous impose. Mais en cet instant, ici, rien qu'entre nous, et pour le seul motif que je suis ce que je suis et que tu es ce que tu es, je te le dis. Je suis heureux. Heureux que tu sois vivant. De voir respirer un souffle l'air dans mes poumons. Si mon sort doit être lié à celui de quelqu'un, je suis heureux que ce soit le tien. » Il se pencha et appuya son front contre le mien. Puis, il poussa un long soupir et s'écarta.
« Dors maintenant, mon garçon !» fit-il en imitant, fort bien ma foi, la voix d'Imbre. « Demain sera bientôt là, et nous avons du pain sur la planche. »
Il eut un rire mal timbré. « Nous devons sauver le monde, toi et moi. »